Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, chapitre 2, de la multiplicité des états de conscience, l'idée de durée. On définit généralement le nombre, une collection d'unités, ou pour parler avec plus de précision, la synthèse de l'un et du multiple. Tout nombre est un, en effet, puisqu'on se le représente par une intuition simple de l'esprit et qu'on lui donne un nom. Mais cette unité est celle d'une somme. Elle embrasse une multiplicité de parties qu'on peut considérer isolément. Sans approfondir pour le moment ces notions d'unité et de multiplicité, demandons-nous si l'idée de nombre n'impliquerait pas la représentation de quelque autre chose encore. Il ne suffit pas de dire que le nombre est une collection d'unités. Il faut ajouter que ces unités sont identiques entre elles, ou du moins qu'on les soupçonne identiques dès qu'on les compte. Sans doute on comptera les moutons d'un troupeau et l'on dira qu'il y en a 50, bien qu'ils se distinguent les uns des autres et que le berger les reconnaisse sans peine. Mais c'est que l'on convient alors de négliger leurs différences individuelles pour ne tenir compte que de leurs fonctions communes. Et au contraire, dès qu'on fixe son attention sur les traits particuliers des objets ou des individus, on peut bien en faire l'énumération, mais non plus la somme. C'est à ces deux points de vue bien différents qu'on se place quand on compte les soldats d'un bataillon et quand on en fait l'appel. Nous dirons donc que l'idée de nombre implique l'intuition simple d'une multiplicité de parties ou d'unités absolument semblables les unes aux autres. Et pourtant, il faut bien qu'elles se distinguent par quelque endroit, puisqu'elles ne se confondent pas en une seule. Supposons tous les moutons du troupeau identiques entre eux. Ils diffèrent au moins par la place qu'ils occupent dans l'espace, sinon ils ne formeraient point un troupeau. Mais laissons de côté les 50 moutons eux-mêmes pour n'en retenir que l'idée. Ou nous les comprenons tous dans la même image, et il faut bien par conséquent que nous les juxtaposions dans un espace idéal, ou nous répétons 50 fois de suite l'image d'un seul d'entre eux, et il semble alors que la série prenne place dans la durée plutôt que dans l'espace. Mais il n'en est rien, cependant. Car si je me figure tour à tour et isolément chacun des moutons de troupeau, je n'aurai jamais affaire qu'à un seul mouton. Pour que le nombre en aille croissant à mesure que j'avance, il faut bien que je retienne les images successives et que je les juxtapose à chacune des unités nouvelles dont j'évoque l'idée. Or, c'est dans l'espace qu'une pareille juxtaposition s'opère et non dans la durée pure. On nous accordera d'ailleurs sans peine que toute opération par laquelle on compte des objets matériels implique la représentation simultanée de ces objets et que par là même on les laisse dans l'espace. Mais cette intuition de l'espace accompagne-t-elle toute idée de nombre, même celle d'un nombre abstrait? Pour répondre à cette question, il suffira à chacun de passer en revue les diverses formes que l'idée de nombre a prise pour lui depuis son enfance. On verra que nous avons commencé par imaginer une rangée de boules, par exemple, puis que ces boules sont devenues des points, puis enfin que cette image elle-même s'est évanouie pour ne plus laisser derrière elle, disons-nous, que le nombre abstrait. Mais à ce moment aussi, le nombre a cessé d'être imaginé et même d'être pensé. Nous n'avons conservé de lui que le signe nécessaire au calcul par lequel on est convenu de s'exprimer. Car on peut fort bien affirmer que 12 est la moitié de 24, sans penser ni le nombre 12 ni le nombre 24. Même pour la rapidité des opérations, on a tout intérêt à n'en rien faire. Mais dès qu'on désire se représenter le nombre et non plus seulement des chiffres ou des mots, force est bien de revenir à une image étendue. Ce qui fait illusion sur ce point, c'est l'habitude contractée de compter dans le temps, semble-t-il, plutôt que dans l'espace. Pour imaginer le nombre 50, par exemple, on répétera tous les nombres à partir de l'unité. Et quand on sera arrivé au 50e, on croira bien avoir construit ce nombre dans la durée et dans la durée seulement. Et il est incontestable qu'on aura compté ainsi des moments de la durée plutôt que des points de l'espace. Mais la question est de savoir si ce n'est pas avec des points de l'espace qu'on aura compté les moments de la durée. Certes, il est possible d'apercevoir dans le temps, et dans le temps seulement, une succession pure et simple, mais non pas une addition, c'est-à-dire une succession qui aboutisse à une somme. Car si une somme s'obtient par la considération successive de différents termes, encore faut-il que chacun de ces termes demeure lorsqu'on passe au suivant et attende, pour ainsi dire, qu'on l'ajoute aux autres. Mais comment attendrait-il s'il n'était qu'un instant de la durée? Et où attendrait-il si nous le localisions dans l'espace? Involontairement, nous fixons dans un point de l'espace chacun des moments que nous comptons, et c'est à cette condition seulement que les unités abstraites forment une somme. Sans doute, il est possible, comme nous le montrerons plus loin, de concevoir les moments successifs du temps indépendamment de l'espace. Mais lorsqu'on ajoute à l'instant actuel ceux qui le précédaient, comme il arrive quand on additionne des unités, ce n'est pas sur ces instants eux-mêmes qu'on espère, puisqu'ils sont à jamais évanouis, mais bien sur la trace durable qu'ils nous paraissent avoir laissée dans l'espace en le traversant. Il est vrai que nous dispensons le plus souvent de recourir à cette image, qu'après en avoir usé pour les deux ou trois premiers nombres, il nous suffit de savoir qu'elle servirait aussi bien à la représentation des autres si nous en avions besoin. Mais toute idée claire du nombre implique une vision dans l'espace. Et l'étude directe des unités qui entrent dans la composition d'une multiplicité distincte va nous conduire sur ce point à la même conclusion que l'examen du nombre lui-même. Tout nombre est une collection d'unités, avons-nous dit, et d'autre part, tout nombre est une unité lui-même en tant que synthèse des unités qu'il compose. Mais le mot « unité » est-il pris dans les deux cas avec le même sens? Quand nous affirmons que le nombre est 1, nous entendons par là que nous le représentons dans sa totalité par une intuition simple et indivisible de l'esprit. Cette unité renferme donc une multiplicité puisque c'est l'unité d'un tout. Mais lorsque nous parlons des unités qui composent le nombre, ces dernières unités ne sont plus des sommes, pensons-nous, mais bien des unités pures et simples, irréductibles et destinées à donner la série de nombres en se composant indéfiniment entre elles. Il semble donc qu'il y ait deux espèces d'unités, l'une définitive qui formera un nombre en s'ajoutant à elle-même, et l'autre provisoire, celle de ce nombre qui, multiplie en lui-même, emprunte son unité à l'acte simple par lequel l'intelligence l'aperçoit. Il est incontestable que, lorsque nous nous figurons les unités composantes du nombre, nous croyons penser à des indivisibles. Et cette croyance entre pour une forte part dans l'idée qu'on pourrait concevoir le nombre indépendamment de l'espace. Toutefois, en y regardant de plus près, on verra que toute unité est celle d'un acte simple de l'esprit et que cet acte consistant à unir, il faut bien que quelque multiplicité lui serve de matière. Sans doute au moment où je pense chacune de ces unités isolément, je la considère comme indivisible puisqu'il est entendu que je ne pense qu'à elle. Mais dès que je la laisse de côté pour passer à la suivante, je l'objective et par là même, j'en fais une chose, c'est-à-dire une multiplicité. Il suffira pour s'en convaincre de remarquer que les unités avec lesquelles l'arithmétique forme des nombres sont des unités provisoires, susceptibles de se morceler indéfiniment, et que chacune d'elles constitue une somme de quantités fractionnaires aussi petites et aussi nombreuses qu'on voudra l'imaginer. Mais comment diviserait-on l'unité s'il s'agissait ici de cette unité définitive qui caractérise un acte simple de l'esprit? Comment la fractionnerait-on tout en la déclarant une si on la considérait implicitement comme un objet étendu hein, dans l'intuition et multiple dans l'espace. Vous ne tirerez jamais d'une idée par vous construite ce que vous n'y aurez point mis. Et si l'unité avec laquelle vous composez votre nombre est l'unité d'un acte et non d'un objet, aucun effort d'analyse n'en fera sortir autre chose que l'unité pure ou simple. Sans doute, quand vous égalez le nombre 3 à la somme 1 plus 1 plus 1, rien ne vous empêche de tenir pour indivisibles les unités qu'il compose. Mais c'est que vous n'utilisez point la multiplicité dont chacune de ces unités est grosse. Il est d'ailleurs probable que le nombre 3 se présente d'abord sous cette forme simple à notre esprit, parce que nous songerons plutôt à la manière dont nous l'avons obtenue qu'à l'usage que nous en pourrions faire. Mais nous ne tardons pas à nous apercevoir que si toute multiplication implique la possibilité de traiter un nombre quelconque comme une unité provisoire qui s'ajoutera à elle-même, inversement, les unités à leur tour sont de véritables nombres aussi grands qu'on voudra, mais que l'on considère comme provisoirement indécomposables pour les composer entre eux. Or, par cela même que l'on admet la possibilité de diviser l'unité en autant de parties que l'on voudra, on la tient pour étendue. Il ne faudrait pas se faire illusion, en effet, sur la discontinuité du nombre. On ne saurait contester que la formation ou construction d'un nombre implique la discontinuité. En d'autres termes, ainsi que nous le disions plus haut, chacune des unités avec lesquelles je forme le nombre 3 paraît constituer un indivisible pendant que j'opère sur elle, et je passe sans transition de celle qui précède à celle qui suit. Mais que si maintenant je construis le même nombre avec des demi, des quarts, des unités quelconques? Ces unités constitueront encore, en tant qu'elles serviront à former ce nombre, des éléments provisoirement indivisibles. Et c'est toujours par saccade, par saut brusque, pour ainsi dire, que nous irons de l'une à l'autre. Et la raison en est que pour obtenir un nombre, force est bien de fixer son attention, tour à tour, sur chacune des unités qui le composent. L'indivisibilité de l'acte par lequel on conçoit l'une quelconque d'entre elles se traduit alors sous forme d'un point mathématique qu'un intervalle vide d'espace sépare du point suivant. Mais si une série de points mathématiques échelonnés dans l'espace vide exprime assez bien le processus par lequel nous formons l'idée de nombre, ces points mathématiques ont une tendance à se développer en ligne à mesure que notre attention se détache d'eux, comme s'ils cherchaient à se rejoindre les uns les autres. Et quand nous considérons le nombre à l'état d'achèvement, cette jonction est un fait accompli. Les points sont devenus des lignes, les divisions se sont effacées, l'ensemble présente tous les caractères de la continuité. C'est pourquoi le nombre composé selon une loi déterminée est décomposable selon une loi quelconque. En un mot, il faut distinguer entre l'unité à laquelle on pense et l'unité qu'on érige en chose après y avoir pensé, comme aussi entre le nombre en voie de formation et le nombre une fois formé. L'unité est irréductible pendant qu'on la pense, et le nombre est discontinu pendant qu'on le construit. Mais dès que l'on considère le nombre à l'état d'achèvement, on l'objective. Et c'est précisément pourquoi il apparaît alors indéfiniment divisible. Remarquons en effet que nous appelons subjectif ce qui paraît entièrement et adéquatement connu, objectif ce qui est connu de telle manière qu'une multitude toujours croissante d'impressions nouvelles pourrait être substituée à l'idée que nous en avons actuellement. Ainsi, un sentiment complexe contiendra un assez grand nombre d'éléments plus simples. Mais tant que ces éléments ne se dégageront pas avec une netteté parfaite, on ne pourra pas dire qu'ils étaient entièrement réalisés. Et dès que la conscience en aura la perception distincte, l'état psychique qui résulte de leur synthèse aura par là même changé. Mais rien ne change à l'aspect total d'un corps, de quelque manière que la pensée le décompose, parce que ces diverses décompositions, ainsi que l'infinité d'autres, sont déjà visibles dans l'image, quoique non réalisées. Cette imperception naturelle, et non pas seulement virtuelle, de subdivision d'un indivisé, est précisément ce que nous appelons objectivité. Dès lors, il devient aisé de faire la part exacte du subjectif et de l'objectif dans l'idée de nombre. Ce qui appartient en propre à l'esprit, c'est le processus indivisible par lequel il fixe son attention successivement sur les diverses parties d'un espace donné. Mais les parties ainsi isolées se conservent pour s'ajouter à d'autres, et une fois additionnées entre elles, se prêtent à une décomposition quelconque. Ce sont donc bien des parties d'espace, et l'espace est la matière avec laquelle l'esprit construit le nombre, le milieu où l'esprit le place. À vrai dire, c'est l'arithmétique qui nous apprend à morceler infiniment les unités dont le nombre est fait. Le sens commun est assez porté à construire le nombre avec des indivisibles. Et cela se conçoit sans peine, puisque la simplicité provisoire des unités composantes est précisément ce qui leur vient de l'esprit, et que celui-ci prête plus d'attention à ses actes qu'à la manière sur laquelle il agit. La science se borne à attirer notre regard sur cette matière. Mais si nous ne localisions déjà le nombre dans l'espace, elle ne réussirait certes pas à nous y faire transporter. Il faut donc bien que, dès l'origine, nous soyons représentés le nombre par une juxtaposition dans l'espace. C'est la conclusion à laquelle nous avions abouti d'abord en nous fondant sur ce que toute addition implique une multiplicité de parties perçues simultanément. Or, si l'on admet cette conception du nombre, on verra que toute chose ne se compte pas de la même manière et qu'il y a deux espèces bien différentes de multiplicité. Quand nous parlons d'objets matériels, nous faisons allusion à la possibilité de les voir et de les toucher. Nous les localisons dans l'espace. Dès lors, aucun effort d'invention ou de représentation symbolique ne nous est nécessaire pour les compter. Nous n'avons qu'à les penser séparément d'abord, simultanément ensuite, dans le milieu même où ils se présentent à notre observation. Il n'en est plus de même si nous considérons des états purement affectifs de l'âme, ou même des représentations autres que celles de la vue et du toucher. Ici, les termes n'étant plus donnés dans l'espace, on ne pourra guère les compter, semble-t-il, a priori que par quelque processus de figuration symbolique. Il est vrai que ce monde de représentation paraît tout indiqué lorsqu'il s'agit de sensations dont la cause est évidemment située dans l'espace. Ainsi, quand j'entends un bruit de pas dans la rue, je vois confusément la personne qui marche. Chacun des sons successifs se localise alors en un point de l'espace où le marcheur pourrait poser le pied. Je compte mes sensations dans l'espace même où leurs causes tangibles s'alignent. Peut-être quelques-uns comptent-ils d'une manière analogue les coups successifs d'une cloche lointaine, et leur imagination se figure la cloche qui va et vient. Cette représentation de nature spatiale leur suffit pour les deux premières unités, et les autres unités suivent naturellement. Mais la plupart des esprits ne procèdent pas ainsi. Ils alignent les sons successifs dans un espace idéal, et s'imagine compter alors les sons dans la pure durée. Il faut pourtant s'entendre sur ce point. Certes, les sons de la cloche m'arrivent successivement, mais de deux choses l'une. Ou je retiens chacun de ces sensations successives pour l'organiser avec les autres et former un groupe qui me rappelle un air ou un rythme connu. Alors je ne compte pas les sons. Je me borne à recueillir l'impression, pour ainsi dire qualitative, que leur nombre fait sur moi. Ou bien je me propose explicitement de les compter. Et il faudra bien alors que je les dissocie, et que cette dissociation s'opère dans quelques milieux homogènes, où les sons, dépouillés de leur qualité, vidés en quelque sorte, laissent des traces identiques de leur passage. Reste à savoir, il est vrai, si ce milieu est du temps ou de l'espace. Mais un moment du temps, nous le répétons, ne saurait se conserver pour ajouter à d'autres. Si les sons se dissocient, c'est qu'ils laissent entre eux des intervalles vides. Si on les compte, c'est que les intervalles demeurent entre les sons qui passent. Mais comment ces intervalles demeureraient-ils s'ils étaient de durée pure et non pas espace? C'est donc bien dans l'espace que s'effectue l'opération. Elle devient d'ailleurs de plus en plus difficile à mesure que nous pénétrons plus avant dans les profondeurs de la conscience. Ici, nous nous trouvons en présence d'une multiplicité confuse de sensations et de sentiments que l'analyse seule distingue. Leur nombre se confond avec le nombre même des moments qu'ils remplissent quand nous les comptons. Mais ces moments susceptibles de s'additionner entre eux sont encore des points de l'espace. D'où résulte enfin qu'il y a deux espèces de multiplicité. Celle des objets matériels qui forment un nombre immédiatement, et celle des faits de conscience qui ne sauraient prendre l'aspect d'un nombre sans l'intermédiaire de quelques représentations symboliques où intervient nécessairement l'espace. À vrai dire, chacun de nous établit une distinction entre ces deux espèces de multiplicité quand il parle de l'impénétrabilité de la matière. On érige parfois l'impénétrabilité en propriété fondamentale des corps, comme de la même manière et admise au même titre que la pesanteur ou la résistance, par exemple. Cependant, une propriété de ce genre, purement négative, ne saurait nous être révélée par les sens. Même certaines expériences de mélange et de combinaison nous amèneraient à la révoquer en doute si notre conviction n'était faite sur ce point. Imaginez qu'un corps pénètre un autre corps. Vous supposerez aussitôt dans celui-ci des vides où les particules du premier viendront se loger. Et ces particules, à leur tour, ne pourront se pénétrer que si l'une d'elles se divise pour remplir les interstices de l'autre. Et notre pensée continuera cette opération indéfiniment, plutôt que de se représenter deux corps à la même place. Or, si l'impénétrabilité était réellement une qualité de la matière connue par les sens, on ne voit pas pourquoi nous éprouverions plus de difficultés à concevoir deux corps se fondant l'un dans l'autre qu'une surface sans résistance ou un fluide impondérable. De fait, ce n'est pas une nécessité d'ordre physique, c'est une nécessité logique qui s'attache à la proposition suivante: deux corps ne sauraient occuper en même temps le même lieu. L'affirmation au contraire renferme une absurdité qu'aucune expérience convenable ne réussirait à dissiper. Bref, elle implique contradiction. Mais cela ne revient pas à reconnaître que l'idée même du nombre 2, ou plus généralement d'un nombre quelconque, renferme celle d'une juxtaposition dans l'espace. Si l'impénétrabilité passe le plus souvent pour une qualité de la matière, c'est parce que l'on considère l'idée du nombre comme indépendante de l'idée d'espace. On croit alors ajouter quelque chose à la représentation de deux ou plusieurs objets en disant qu'ils ne sauraient occuper le même lieu. Comme si la représentation du nombre 2, même abstrait, n'était pas déjà, comme nous l'avons montré, celle de deux positions différentes dans l'espace. Poser l'impénétrabilité de la matière, c'est donc simplement reconnaître la solidarité des notions de nombre et d'espace. C'est énoncer une propriété du nombre plutôt que de la matière. Pourtant, on compte des sentiments, des sensations, des idées, toutes choses qui se pénètrent les unes les autres et qui, chacune de son côté, occupent l'âme tout entière. Oui, sans doute, mais précisément parce qu'elles se pénètrent, on ne les compte qu'à la condition de les représenter par des unités homogènes, occupant des places distinctes dans l'espace, des unités qui ne se pénètrent plus par conséquent. L'impénétrabilité fait donc son apparition en même temps que le nombre. Et lorsqu'on attribue cette qualité à la matière pour la distinguer de tout ce qui n'est point telle, on se borne à énoncer, sous une autre forme, la distinction que nous établissions plus haut entre les choses étendues, qui ne se peuvent traduire immédiatement en nombre, et les faits de conscience, qui impliquent d'abord une représentation symbolique dans l'espace. Il convient de s'arrêter sur ce dernier point. Si pour compter les faits de conscience, nous devons les représenter symboliquement dans l'espace, n'est-il pas vraisemblable que cette représentation symbolique modifiera les conditions normales de la perception interne? Rappelons-nous ce que nous disions un peu plus haut de l'intensité de certains états psychiques. La sensation représentative envisagée en elle-même est qualité pure. Mais vue à travers l'étendue, cette qualité devient quantité en un certain sens. On l'appelle intensité. Ainsi, la projection que nous faisons de nos états psychiques dans l'espace pour en former une multiplicité distincte doit influer sur ces états eux-mêmes et leur donner, dans la conscience réfléchie, une forme nouvelle que la perception immédiate ne leur attribuait pas. Or, remarquons que, lorsque nous parlons du temps, nous pensons le plus souvent à un milieu homogène, où nos faits de conscience s'alignent, se juxtaposent comme dans l'espace et réussissent à former une multiplicité distincte. Le temps ainsi compris ne serait-il pas la multiplicité de nos états psychiques, ce que l'intensité est à certains d'entre eux, un signe, un symbole absolument distinct de la vraie durée? Nous allons donc demander à la conscience de s'isoler du monde extérieur et, par un vigoureux effort d'abstraction, de redevenir elle-même. Nous lui posons alors cette question. La multiplicité de nos états de conscience a-t-elle la moindre analogie avec la multiplicité des unités d'un nombre? La vraie durée a-t-elle le moindre rapport avec l'espace? Certes, notre analyse de l'idée de nombre devrait nous faire douter de celle analogue, pour ne pas dire davantage. Car si le temps, tel que se le représente la conscience réfléchie, est un milieu où nos états de conscience se succèdent distinctement, de manière à pouvoir se compter, et si d'autre part notre conception du monde aboutit à éparpiller dans l'espace tout ce qui se compte directement, il est à présumer que le temps, entendu au sens d'un milieu où l'on distingue et où l'on compte, n'est que de l'espace. Ce qui confirmerait d'or cette opinion, c'est qu'on emprunte nécessairement à l'espace les images par lesquelles on décrit le sentiment que la conscience réfléchit du temps et même de la succession. Il faut donc que la pure durée soit autre chose, mais ces questions que nous sommes amenés à nous poser par l'analyse même de la notion de multiplicité distincte, nous ne pourrons les élucider que par une étude directe des idées d'espace et de temps dans les rapports qu'elles soutiennent entre elles. On aurait tort d'attribuer une trop grande importance à la question de la réalité absolue de l'espace. Autant vaudrait peut-être se demander si l'espace est ou n'est pas dans l'espace. En somme, nos sens perçoivent les qualités des corps et l'espace avec elles. La grosse difficulté paraît avoir été de démêler si l'étendue est un aspect de ces qualités physiques, une qualité de la qualité, ou si ces qualités sont inétendues par essence, l'espace venant s'y ajouter, mais se suffisant à lui-même et subsistant sans elle. Dans la première hypothèse, l'espace se réduirait à une abstraction, ou pour mieux dire, à un extrait. Il exprimerait ce que certaines sensations dites représentatives ont de commun entre elles. Et dans la seconde, ce serait une réalité aussi solide que ces sensations mêmes, quoique d'un autre ordre. On doit à Kant la formule précise de cette dernière conception. La théorie qu'il développe dans l'esthétique transcendantale consiste à doter l'espace d'une existence indépendante de son contenu, à déclarer isolable en droit ce que chacun de nous sépare en fait, et à ne pas voir dans l'étendue une abstraction comme les autres. En ce sens, la conception kantienne de l'espace diffère moins qu'on ne s'imagine de la croyance populaire. Bien loin d'ébranler notre foi à la réalité de l'espace, Kant en a déterminé le sens précis et en a même apporté la justification. Il ne semble pas d'ailleurs que la solution donnée par Kant ait été sérieusement contestée depuis ce philosophe. Même elle s'est imposée, parfois à leur insu, à la plupart de ceux qui ont de nouveau abordé le problème, nativistes ou empiristes. Les psychologues sont d'accord pour attribuer une origine kantienne à l'explication nativiste de Jean Müller, mais l'hypothèse des signes locaux de Lotze, la théorie de Bain et l'explication plus compréhensible proposée par Wundt paraîtront au premier abord tout à fait indépendantes de l'esthétique transcendantale. Les auteurs de ces théories semblent en effet avoir laissé de côté le problème de la nature de l'espace pour rechercher seulement par quel processus nos sensations viennent s'y prendre place et se juxtaposer, pour ainsi dire, les unes aux autres. Mais par là même, ils considèrent les sensations comme inextensives et établissent à la manière de Kant une distinction radicale entre la matière de la représentation et sa forme. Ce qui ressort des idées de Lotze, de Bain et de la conciliation que Wundt paraît en avoir tenté, c'est que les sensations par lesquelles nous arrivons à former la notion d'espace sont inétendues elles-mêmes et simplement qualitatives. L'étendue résulterait de leur synthèse, comme l'eau de la combinaison de deux gaz. Les explications empiristes ou génétiques ont donc bien repris le problème de l'espace au point précis où Kant l'avait laissé. Kant a détaché l'espace de son contenu, et les empiristes cherchent comment ce contenu, isolé de l'espace par notre pensée, arriverait à y reprendre place. Il est vrai qu'ils paraissent avoir méconnu ensuite l'activité de l'intelligence, et qu'ils inclinent visiblement à engendrer la forme extensive de notre représentation, par une espèce d'alliance des sensations entre elles. L'espace, sans être extrait des sensations, résulterait de leur coexistence. Oui, mais comment expliquer une pareille genèse sans une intervention active de l'esprit? L'extensif distingue par hypothèse de l'inextensif, et à supposer que l'extension ne soit qu'un rapport entre des termes inextensifs. Encore faut-il que ce rapport soit établi par un esprit capable d'associer ainsi plusieurs termes. En vain, on alléguera l'exemple des combinaisons chimiques où le tout paraît revêtir de lui-même une forme et des qualités qui n'appartenaient à aucun des atomes élémentaires. Cette forme, ces qualités, naissent précisément de ce que nous embrassons la multiplicité des atomes dans une apperception unique, et supprimez l'esprit qui opère cette synthèse, et vous anéantirez aussitôt les qualités, c'est-à-dire l'aspect sous lequel se présente à notre conscience la synthèse des parties élémentaires. Ainsi, des sensations inextensives resteront ce qu'elles sont, sensations inextensives, si rien ne s'y ajoute. Pour que l'espace naisse de leur coexistence, il faut un acte de l'esprit qui les embrasse toutes à la fois et les juxtapose. Et cet acte, sui generis, ressemble assez à ce que Kant appelait une forme a priori de la sensibilité. Et que si maintenant on cherchait à caractériser cet acte, on verrait qu'il consiste essentiellement dans l'intuition, ou plutôt dans la conception, d'un milieu vide homogène. Car il n'y a guère d'autre définition possible de l'espace. C'est ce qui nous permet de distinguer l'une de l'autre plusieurs sensations identiques et simultanées. C'est donc un principe de différenciation autre que celui de la différenciation qualitative, et par suite une réalité sans qualité. Dira-t-on avec les partisans de la théorie des signes locaux que des sensations simultanées ne sont jamais identiques et que par suite de la diversité des éléments organiques qu'ils influencent, il n'y a que deux points d'une surface homogène qui produisent sur la vue ou sur le toucher la même impression? Nous l'accorderons sans peine, car si ces deux points nous affectaient de la même manière, il n'y aurait aucune raison pour placer l'un d'eux à droite plutôt qu'à gauche. Mais précisément parce que nous interprétons ensuite cette différence de qualité dans le sens d'une différence de situation, il faut bien que nous ayons l'idée claire d'un milieu homogène, c'est-à-dire d'une simultanéité de termes qui, identiques en qualité, se distinguent néanmoins les uns des autres. Et plus on insistera sur la différence des impressions faites sur notre rétine par deux points d'une surface homogène, plus seulement on fera de place à l'activité de l'esprit qui aperçoit, sous forme d'homogénéité étendue, ce qui lui est donné comme hétérogénéité qualitative. Nous estimons d'ailleurs que si la représentation d'un espace homogène est due à un effort de l'intelligence, inversement, il doit y avoir, dans les qualités mêmes qui différencient deux sensations, une raison en vertu de laquelle elles occupent dans l'espace telle ou telle place déterminée. Il faudrait donc distinguer entre la perception de l'étendue et la conception de l'espace. Elles sont sans doute impliquées l'une dans l'autre, mais plus on s'élèvera dans la série des êtres intelligents, plus se dégagera avec netteté l'idée indépendante d'un espace homogène. En ce sens, il est douteux que l'animal perçoive le monde extérieur absolument comme nous, et surtout qu'il s'en représente tout à fait comme nous, l'extériorité. Les naturalistes ont signalé comme un fait digne de remarque l'étonnante facilité avec laquelle beaucoup de vertébrés et même quelques insectes arrivent à se diriger dans l'espace. On a vu des animaux revenir presque en ligne droite à leur ancienne demeure, parcourant sur une longueur qui peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres un chemin qu'ils ne connaissaient pas encore. On a essayé d'expliquer ce sentiment de la direction par la vue ou l'odorat et plus récemment par une perception des courants magnétiques qui permettrait à l'animal de s'orienter comme une boussole. Cela revient à dire que l'espace n'est pas aussi homogène pour l'animal que pour nous, et que les déterminations de l'espace ou direction ne revêtent point pour lui une forme purement géométrique. Chacune d'elles lui apparaîtrait avec sa nuance, avec sa qualité propre. On comprendra la possibilité d'une perception de ce genre si l'on songe que nous distinguons nous-mêmes notre droite de notre gauche par un sentiment naturel, et que ces deux déterminations de notre propre étendue nous présentent bien alors une différence de qualité. C'est même pourquoi nous échouons à les définir. À vrai dire, les différences qualitatives sont partout dans la nature, et on ne voit pas pourquoi deux directions concrètes ne seraient point aussi marquées dans les interceptions immédiates que deux couleurs. Mais la conception d'un milieu vide homogène est chose autrement extraordinaire et paraît exiger une espèce de réaction contre cette hétérogénéité qui constitue le fond même de notre expérience. Il ne faudrait donc pas dire seulement que certains animaux ont un sens spécial de la direction, mais encore et surtout que nous avons la faculté spéciale de percevoir ou de concevoir un espace sans qualité. Cette faculté n'est point celle d'abstraire, même si l'on remarque que l'abstraction suppose des distinctions nettement tranchées et une espèce d'extériorité des concepts ou de leurs symboles, les uns par rapport aux autres, on trouvera que la faculté d'abstraire implique déjà l'intuition d'un milieu homogène. Ce qu'il faut dire, c'est que nous connaissons deux réalités d'ordre différent, l'une hétérogène, celle des qualités sensibles, l'autre homogène, qui est l'espace. Cette dernière, nettement conçue par l'intelligence humaine, nous met à même d'opérer des distinctions tranchées, de compter, d'abstraire, et peut-être aussi de parler. Or, si l'espace doit se définir l'homogène, il semble qu'inversement, tout milieu homogène et indéfini sera espace. Car l'homogénéité consistant ici dans l'absence de toute qualité, on ne voit pas comment deux formes de l'homogène se distingueraient l'une de l'autre. Néanmoins, on s'accorde à envisager le temps comme un milieu indéfini, différent de l'espace, mais homogène comme lui. L'homogène revêtirait ainsi une double forme, selon qu'une coexistence ou une succession le remplit. Il est vrai que lorsqu'on fait du temps un milieu homogène, où les états de conscience paraissent se dérouler, on se le donne par là même tout d'un coup, ce qui revient à dire qu'on le soustrait à la durée. Cette simple réflexion devrait nous avertir que nous retombons alors inconsciemment sur l'espace. D'autre part, on conçoit que les choses matérielles extérieures les unes aux autres et extérieures à nous empruntent ce double caractère à l'homogénéité d'un milieu qui établisse des intervalles entre elles et en fixe les contours. Mais les faits de conscience, même successifs, se pénètrent et dans le plus simple d'entre eux peut se réfléchir l'âme entière. Il y aurait donc lieu de se demander si le temps, conçu sous la forme d'un milieu homogène, ne serait pas un concept bâtard dû à l'intrusion de l'idée d'espace dans le domaine de la conscience pure. De toute manière, on ne saurait admettre définitivement deux formes de l'homogène, temps et espace, sans rechercher d'abord si l'une d'elles ne serait pas réductible à l'autre. Or, l'extériorité est le caractère propre des choses qui occupent de l'espace. Tandis que les faits de conscience ne sont point essentiellement extérieurs les uns aux autres et ne le deviennent que par un déroulement dans le temps, considéré comme un milieu homogène. Si donc l'une de ces deux prétendues formes de l'homogène, temps et espace, dérive de l'autre, on peut affirmer a priori que l'idée d'espace est la donnée fondamentale. Mais, abusés par la simplicité apparente de l'idée de temps, les philosophes qui ont essayé d'une réduction de ces deux idées ont cru pouvoir construire la représentation de l'espace avec celle de la durée. En montrant le vice de cette théorie, nous ferons voir comment le temps, conçu sous la forme d'un milieu indéfini et homogène, n'est que le fantôme de l'espace obsédant la conscience réfléchie. L'école anglaise s'efforce en effet de ramener les rapports d'étendue à des rapports plus ou moins complexes de succession dans la durée. Quand, les yeux fermés, nous promenons la main le long d'une surface, le frottement de nos doigts contre cette surface et surtout le jeu varié de nos articulations nous procure une série de sensations qui ne se distinguent que par leur qualité et qui présentent un certain ordre dans le temps. D'autre part, l'expérience nous avertit que cette série est réversible, que nous pourrions, par un effort de nature différente, ou comme nous dirons plus tard, en sens opposé, nous procurer à nouveau, dans un ordre inverse, les mêmes sensations. Les rapports de situation dans l'espace se définiraient alors, si l'on peut parler ainsi, des rapports réversibles de succession dans la durée. Mais une pareille définition enferme un cercle vicieux, ou tout au moins une idée bien superficielle de la durée. Il y a en effet, comme nous le montrerons en détail un peu plus loin, deux conceptions possibles de la durée, l'une pure de tout mélange, l'autre où intervient subrepticement l'idée d'espace. La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs. Il n'a pas besoin pour cela de s'absorber tout entier dans la sensation ou l'idée qui passe, car alors au contraire il cesserait de durer. Il n'a pas besoin non plus d'oublier les états antérieurs. Il suffit qu'en se rappelant ces états, il ne juxtapose pas à l'état actuel comme un point à un autre point, mais les organise avec lui, comme il arrive quand nous nous rappelons fondu pour ainsi dire ensemble les notes d'une mélodie. Ne pourrait-on pas dire que, si ces notes se succèdent, nous apercevons néanmoins les unes dans les autres et que leur ensemble est comparable à un être vivant, dont les parties, quoique distinctes, se pénètrent par l'effet même de leur solidarité. La preuve en est que si nous rompons la mesure en insistant plus que de raison sur une note de la mélodie, ce n'est pas sa longueur exagérée en tant que longueur qui nous avertira de notre faute, mais le changement qualitatif apporté par là à l'ensemble de la phrase musicale. On peut donc concevoir la succession sans la distinction et comme une pénétration mutuelle, une solidarité, une organisation intime d'éléments dont chacun représentatif du tout ne s'en distingue et ne s'en isole que pour une pensée capable d'abstraire. Telle est sans aucun doute la représentation que se ferait de la durée un être à la fois identique et changeant qui n'aurait aucune idée de l'espace. Mais familiarisés avec cette dernière, obsédés même par elle, nous l'introduisons à notre insu dans notre représentation de la succession pure. Nous juxtaposons nos états de conscience de manière à les apercevoir simultanément, non plus l'un dans l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Bref, nous projetons le temps dans l'espace, nous exprimons la durée en étendue et la succession prend pour nous la forme d'une ligne continue ou d'une chaîne dont les parties se touchent sans se pénétrer. Remarquons que cette dernière image implique la perception non plus successive mais simultanée de l'avant et de l'après, et qu'il y aurait contradiction à supposer une succession qui ne fut que succession et qui tint néanmoins dans un seul et même instant. Or, quand on parle d'un ordre succession dans la durée et de la réversibilité de cet ordre, la succession dont il s'agit est-elle la succession pure, telle que nous la définissons plus haut et sans mélange d'étendue, ou la succession se développant en espace de telle manière qu'on ne puisse embrasser à la fois plusieurs termes séparés et juxtaposés? La réponse n'est pas douteuse. On ne saurait établir un ordre entre des termes sans les distinguer d'abord, sans comparer ensuite les places qu'ils occupent. On les aperçoit donc de multiples, simultanés et distincts en un mot. On les juxtapose. Et si l'on établit un ordre dans le successif, c'est que la succession devient simultanéité et se projette dans l'espace. Bref, lorsque le déplacement de mon doigt le long d'une surface ou d'une ligne me procurera une série de sensations de qualités diverses, il arrivera de deux choses l'une, ou je me figurerai ces sensations dans la durée seulement, mais elles se succéderont alors de telle manière que je ne puisse à un moment donné me représenter plusieurs d'entre elles comme simultanées et pourtant distinctes, ou bien je discernerai un ordre de succession. C'est qu'alors j'ai la faculté non seulement de percevoir une succession de termes, mais encore de les aligner ensemble après les avoir distingués. En un mot, j'ai déjà l'idée d'espace. L'idée d'une série réversible dans la durée, ou même simplement d'un certain ordre de succession dans le temps, implique donc elle-même la représentation de l'espace et ne saurait être employée à le définir. Pour mettre cette argumentation sous une forme plus rigoureuse, imaginons une ligne droite, indéfinie, et sur cette ligne un point matériel, A, qui se déplace. Si ce point prenait conscience de lui-même, il se sentirait changé puisqu'il se meut. Il apercevrait une succession, mais cette succession revêtirait-elle pour lui la forme d'une ligne? Oui, sans doute, à condition qu'il puisse s'élever en quelque sorte au-dessus de la ligne qu'il parcourt et en apercevoir simultanément plusieurs points juxtaposés. Mais par là même, il formerait l'idée d'espace, et c'est dans l'espace qu'il verrait se dérouler les changements qu'il subit et non dans la pure durée. Nous touchons ici du doigt l'erreur de ceux qui considèrent la pure durée comme chose analogue à l'espace, mais de nature plus simple. Ils se plaisent à juxtaposer les étapes psychologiques, à en former une chaîne ou une ligne, et ne s'imaginent point faire intervenir dans cette opération l'idée d'espace proprement dite, l'idée d'espace dans sa totalité, parce que l'espace est un milieu à trois dimensions. mais qui ne voit que pour apercevoir une ligne sous forme de ligne, il faut se placer en dehors d'elle, se rendre compte du vide qui l'entoure et penser par conséquent à un espace à trois dimensions. Si notre point conscient A n'a pas encore l'idée d'espace, et c'est bien dans cette hypothèse que nous devons nous placer, la succession des états par lesquels il passe ne saurait revêtir pour lui la forme d'une ligne, mais ces sensations s'ajouteront dynamiquement les unes aux autres et s'organiseront entre elles comme font les notes successives d'une mélodie par laquelle nous nous laissons bercer. Bref, la pure durée pourrait bien être qu'une succession de changements qualitatifs qui se fondent, qui se pénètrent sans contour précis, sans aucune tendance à s'extérioriser les uns par rapport aux autres, sans aucune parenté avec le nombre. Ce serait l'hétérogénéité pure. Mais nous n'insisterons pas pour le moment sur ce point, qu'il nous suffise d'avoir montré que dès l'instant où l'on attribue la moindre homogénéité à la durée, on introduit subrepticement l'espace. Il est vrai que nous comptons les moments successifs de la durée et que par ses rapports avec le nombre, le temps nous apparaît d'abord comme une grandeur mesurable, tout à fait analogue à l'espace. Mais il y a ici une importante distinction à faire. Je dis par exemple qu'une minute vient de s'écouler, et j'entends par là qu'une pendule battant la seconde a exécuté 60 oscillations. Si je me représente ces 60 oscillations tout d'un coup et par une seule perception de l'esprit, j'exclus par hypothèse l'idée d'une succession. Je pense non à 60 battements qui se succèdent, mais à 60 points d'une ligne fixe dont chacun symbolise, pour ainsi dire, une oscillation du pendule. Et si, d'autre part, je veux me représenter ces 60 oscillations successivement, mais sans rien changer à leur mode de production dans l'espace, je devrais penser à chaque oscillation en excluant le souvenir de la précédente. Car l'espace n'en a conservé aucune trace. Mais par là même, je me condamnerai à demeurer sans cesse dans le présent. Je renoncerai à penser une succession ou une durée. Et que si enfin je conserve, joint à l'image de l'oscillation présente, le souvenir de l'oscillation qui la précédait, il arrivera de deux choses l'une. Ou je juxtaposerai les deux images et nous retombons alors sur notre première hypothèse, où je les apercevrai l'une dans l'autre, se pénétrant et s'organisant entre elles comme les notes d'une mélodie, de manière à former ce que nous appellerons une multiplicité indistincte ou qualitative, sans aucune ressemblance avec le nombre. J'obtiendrai ainsi l'image de la durée pure, mais aussi je me serai entièrement dégagé de l'idée d'un milieu homogène ou d'une quantité mesurable. En interrogeant soigneusement la conscience, on reconnaîtra qu'elle procède ainsi toutes les fois qu'elle s'abstient de représenter la durée symboliquement. Quand les oscillations régulières du balancier nous invitent au sommeil, est-ce le dernier saut entendu, le dernier mouvement perçu qui produit cet effet? Non, sans doute, car on ne comprendrait pas pourquoi le premier n'eût point agi de même. Est-ce juxtaposé au dernier son ou au dernier mouvement le souvenir de ce qui précède? Mais ce même souvenir, se juxtaposant plus tard à un son ou à un mouvement unique, demeurera inefficace. Il faut donc admettre que les sons se composaient entre eux et agissaient non pas par leur qualité en tant que quantité, mais par la qualité que leur quantité présentait, c'est-à-dire par l'organisation rythmique de leur ensemble. Comprendrait-on autrement l'effet d'une excitation faible et continue? Si la sensation restait identique à elle-même, elle demeurait indéfiniment faible, indéfiniment supportable. Mais la vérité est que chaque surcroît d'excitation s'organise avec les excitations précédentes et que l'ensemble nous fait l'effet d'une phrase musicale qui serait toujours sur le point de finir et sans cesse se modifierait dans sa totalité par l'addition de quelques notes nouvelles. Si nous affirmons que c'est toujours la même sensation, c'est que nous songeons non à la sensation même, mais à sa cause objective située dans l'espace. Nous la déployons alors dans l'espace à son tour. Et au lieu d'un organisme qui se développe, au lieu de modifications qui se pénètrent les unes les autres, nous apercevons une même sensation s'étendant en longueur, pour ainsi dire, et se juxtaposant indéfiniment à elle-même. La vraie durée, celle que la conscience perçoit, devrait donc être rangée parmi les grandeurs dites intensives, si toutefois les intensités pouvaient s'appeler des grandeurs. À vrai dire, ce n'est pas une quantité, et dès qu'on essaie de la mesurer, on lui substitue inconsciemment de l'espace. Mais nous éprouvons une incroyable difficulté à nous représenter la durée dans sa pureté originelle, et cela tient sans doute à ce que nous ne durons pas seuls. Les choses extérieures, semble-t-il, durent comme nous, et le temps envisagé de ce dernier point de vue a tout l'air d'un milieu homogène. Non seulement les moments de cette durée paraissent extérieurs les uns aux autres, comme le seraient des corps dans l'espace, mais le mouvement perçu par nos sens est le signe en quelque sorte palpable d'une durée homogène et mesurable. Bien plus, le temps entre dans les formules de la mécanique, dans les calculs de l'astronomie et même du physicien, sous forme de quantité. On mesure la vitesse d'un mouvement, ce qui implique que le temps lui aussi est une grandeur. L'analyse même que nous venons de tenter demande à être complétée, car si la durée proprement dite ne se mesure pas, qu'est-ce donc que les oscillations du pendule mesurent ? À la rigueur, on admettra que la durée interne, perçue par la conscience, se confond avec l'emboîtement des faits de conscience les uns dans les autres, avec l'enrichissement graduel du moi. Mais le temps que l'astronome introduit dans ses formules, le temps que nos horloges divisent en parcelles égales, ce temps-là, dira-t-on, est autre chose. C'est une grandeur mesurable et par conséquent homogène. Bien, il n'en est rien, cependant, et un examen attentif dissipera cette dernière illusion.